Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est l'équivalent d'un 11 septembre par jour. Ainsi parle Brian Wood, un responsable sur place d'Amnesty International. Et pourtant, qui s'intéresse vraiment à ce drame humain, sans comparaison ou presque, dans notre monde assommé par la crise financière et d'abord soucieux de sauvegarder ses privilèges? La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, connaît donc sa troisième guerre civile en une décennie. Un conflit qui déchire en ce moment le Kivu, une province située à l'est du pays, c'est-à-dire dans une région limitrophe du Rwanda et de l'Ouganda, deux États qui n'ont jamais réellement dissimulé leur intérêt pour ce territoire où abondent les richesses naturelles, tant minières et même gazières et pétrolifères qu'agricoles ou forestières. Outre ces convoitises, il faut aussi souligner que la crise actuelle découle directement des événements tragiques qui se sont déroulés au Rwanda en 1994, un génocide qui a provoqué la mort d'au moins 800 000 Tutsis et qui a été suivi par d'autres massacres au Congo même. Au Kivu, on assiste donc à une sorte de répétition tragique de ces horreurs où, comme d'habitude, ce sont les civils qui paient le prix fort. Assassinats, viols, pillages, épidémies et bien sûr déplacements de populations qui fuient par dizaines de milliers et se réfugient tant bien que mal dans la jungle. Et ceci malgré la présence du plus gros contingent de casques bleus jamais mobilisé par l'ONU. Monsieur X, qui m'a souvent parlé du Congo, revient donc d'abord aux sources de ce drame dont on voit mal l'issue et qui ne semble guère préoccuper la communauté internationale.
Bon, je ne vais pas remonter trop loin, mais il faut d'abord dire que le long règne du maréchal président Mobutu, au moins jusqu'à la fin des années 80, a été pour le Zaïre une période de paix et de relative prospérité.
En dépit des dérives de ce pouvoir autoritaire, est corrompu.
Bon, il est vrai que Mobutu n'a jamais fait vraiment la différence entre sa bourse et les caisses de l'État. Conséquence, malgré sa richesse potentielle et un calme tout relatif, le Zaïre s'appauvrit progressivement au fur et à mesure que le régime se délite. Toutefois, ce géant africain continue d'être soutenu par le monde occidental.
Il faut rappeler que Mobutu était lui-même un agent de la CIA.
La CIA qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Les États-Unis lui sont donc longtemps restés fidèles. Et ça s'explique très bien dans une Afrique balayée par de nombreux conflits. Le Congo est un bastion occidental et peut même servir de plaque tournante pour intervenir dans des pays menacés par la subversion communiste. Puis il y a aussi une deuxième raison, c'est l'aspect financier.
C'est-à-dire ?
Le pays est si endetté qu'on ne peut pas le laisser tomber. Si les créanciers veulent récupérer leur argent, ils doivent au contraire lui prêter encore plus.
Oui, pour payer le service de la dette.
Et puis on fait d'excellentes affaires au Congo, faut pas l'oublier.
Oui, la richesse de son sous-sol.
En particulier. Ouais. Oui.
Mais tout change avec l'effondrement de l'Empire soviétique.
C'est ça. Le Congo n'est plus aussi utile. Et puis, il y a cet endettement faramineux. Ce sont d'abord les Belges qui jettent l'éponge.
Les Belges qui sont les premiers colonisateurs, il faut le rappeler.
Ils abandonnent donc le navire, quitte à perdre beaucoup. Et bientôt, les Américains suivent et cessent d'aider Mobutu. Le prétexte, car il faut toujours trouver un prétexte, c'est la nature du régime.
Ouais, la dictature.
Et le non-respect des droits de l'homme.
Ouais. On aurait pu s'en apercevoir avant, non?
Écoutez, je suis d'accord avec vous, mais la donne internationale a changé. Le résultat, c'est que malgré quelques timides tentatives de démocratisation, le Zaïre va s'enfoncer dans le chaos. Pour se sortir d'affaires, Mobutu ira même jusqu'à faire fabriquer de faux dollars.
Ce qui n'a pas dû arranger ses relations avec Washington.
En effet, d'autant que ses généraux vont vendre des armes au Soudan, un état voyou, comme on dit à la Maison-Blanche, c'est-à-dire un pays qui soutient le terrorisme. Mobutu va aussi, et ce ne sera pas sans conséquence pour la suite, aviver les querelles ethniques.
Pour faire oublier ses propres dérives.
Naturellement, et dans les chancelleries occidentales, on commence à se poser concrètement la question de sa succession. Enfin, quand je dis les chancelleries occidentales, je généralise un peu vite.
Pourquoi, il y a des exceptions, là?
La France, oui. À Paris, on a vu sans déplaisir belges et américains lâcher Mobutu.
Et on a essayé de les remplacer.
Oui, nos relations avec le Zaïre avaient toujours été délicates. Il y avait donc là une occasion à saisir afin de réintégrer ce grand pays africain dans le monde francophone.
Ouais, malgré la nature du régime.
Appelez ça du réalisme politique. J'ajoute que si c'est le président Mitterrand qui a donné son accord au réchauffement de nos relations avec le dictateur zaïrois, son successeur Jacques Chirac n'a pas été en reste. Et en 1996, au moment où ça commencera à aller très mal pour Mobutu, la cellule africaine de l'Élysée encouragera très discrètement l'envoi de mercenaires au Zaïre.
Ouais, mais en vain.
Certainement. Mmh. Il était déjà trop tard pour sauver le soldat Mobutu, qui était par ailleurs très malade. Et bientôt, vous le savez, son régime va s'effondrer comme un château de cartes. Mais si le lâchage des Américains a été incontestablement fatal au maréchal Mobutu, un deuxième événement a joué un rôle essentiel dans cette chute, c'est la dramatique crise rwandaise.
Ouais, le génocide.
Oui, oui, après ce terrible génocide des Tutsis par les Hutus, les premiers prennent leur revanche, et l'armée du général Paul Kagame s'empare du pouvoir à Kigali. La conséquence immédiate, c'est que les Hutus fuient le Rwanda par centaines de milliers.
Et d'abord, ceux qui ont participé au génocide, qui ont
en priorité, mains, oui. En partie protégés par les soldats français de l'opération turquoise, ces Hutus anciens militaires ou membres des milices vont se réfugier de l'autre côté de la frontière, à l'ouest, c'est-à-dire au Zaïre. Ils s'installent plus précisément dans deux provinces frontalières, le nord Kivu et le sud Kivu, où ils vont vivre dans des camps de réfugiés. Ça va avoir des conséquences très graves.
Et pourquoi, là ?
Vous devez d'abord savoir que dans ces deux régions, il existe depuis très longtemps une tension ethnique et nationaliste permanente. On recense en effet au Kivu, tant au nord qu'au sud, des communautés tutsis, mais aussi hutus importantes, qui ne sont pas considérées comme zaïroises.
Ouais, pas zaïroises, rwandais, c'est ça ?
Oui, oui. Alors, dans ces régions, les vrais zaïrois, si je puis dire, soupçonnent le Rwanda surpeuplé d'avoir des visées expansionnistes et de vouloir un jour ou l'autre se tailler un fief à leur détriment. Ça a d'ailleurs entraîné dans le passé de nombreux conflits locaux.
Et j'imagine, alors, ces Zaïrois ne voient pas d'un bon œil l'arrivée massive de ces Hutus qui ont fui le Rwanda.
Bah, bien entendu. Mmh. Et peu leur importe qu'ils soient Hutus ou Tutsis. Pour eux, ce sont d'abord des Rwandais.
Et donc des envahisseurs.
C'est certain. Autre conséquence. Ces centaines de milliers de Hutus massés à la frontière rwandaise représentent aussi une menace pour Kigali et le régime du président Kagame.
Mmh, parce qu'il y a parmi eux des... Il faut répéter, des miliciens et des militaires responsables du génocide.
Et Kigali peut craindre que ces assassins ne repassent un jour la frontière, oui. D'autant que dans les camps de réfugiés, ces hommes se sont organisés et font la loi. Et d'ailleurs, certains n'hésiteront pas à lancer des attaques ponctuelles au Rwanda. Donc, Kigali réclame à corps et à cri le démantèlement de ces camps de réfugiés. Et si les Rwandais ne sont pas entendus... Ils menacent d'aller faire eux-mêmes le ménage.
Ah oui, ça veut dire intervenir directement en territoire zaïrois.
Ben, il faut aussi ajouter, et c'est un autre facteur de déstabilisation, que ces Hutus vont parfois se conduire en terrain conquis.
C'est-à-dire
bon, certains se lancent dans l'exploitation et le trafic des matières premières qui font la richesse du Kivu. L'or est un minerai très précieux. Le coltan, qui est utilisé dans la fabrication de matériel électronique comme les téléphones portables et les consoles de jeux. Un minerai stratégique et très cher. Car il est aussi employé par les industriels de l'armement. Mais on y reviendra, car cette poussière grise qu'on ramasse un peu partout au Kivu, sans même avoir besoin de creuser, a joué un grand rôle dans les crises successives qu'a connues la région depuis le milieu des années 90.
Mais, alors, d'après vous, quand même, la cause première des conflits à venir, c'est la question rwandaise.
Bah, évidemment, car depuis, les deux Kivus n'ont plus jamais connu la paix. En tout cas, c'est dans ce terreau explosif que réapparaît un homme que tout le monde a oublié, un certain Laurent Désiré Kabila.
Un homme oublié, dites-vous.
Oui, oui, car autrefois, dans les premières années de l'indépendance du Congo-Kinshasa, Kabila a eu une petite célébrité. Ce jeune Katangais a très vite pris le parti du premier ministre progressiste, Patrice Lumumba. Et quand ce dernier a été assassiné, il est parti en exil. Puis il est revenu dans son pays clandestinement et il est devenu chef d'une guérilla anti-Mobutu dans l'est du pays. C'est d'ailleurs au Maquis qu'il a fait la connaissance d'Ernesto Guevara, le Che qui aura d'ailleurs une piètre opinion du jeune maquisard.
Pour quelle raison, là ?
Bon, selon le leader castriste, Kabila est bien plus intéressé par les filles ou l'alcool que par la lutte armée. Il n'est pas le seul. Et vous le savez sans doute, le Che, dégoûté, renoncera à exporter la révolution au Congo et il regagnera vite l'Amérique du Sud. Ouais.
Et Kabila, que devient-il, lui ?
Ah ben, il demeure dans le maquis, il résistera aux troupes de Mobutu, au moins jusqu'au milieu des années 70. Et après avoir créé un parti révolutionnaire d'inspiration maoïste, il organise autour de lui, dans un secteur montagneux et désert, une sorte de phalanstère, une terre dite libre, où en fait tout le monde est à sa dévotion.
Un gourou, quoi.
Un tyranno, plutôt. Kabila n'est pas d'un tendre. Il faut lui obéir si on ne veut pas avoir de sérieux ennuis. Et déjà, perce en lui l'homme qui régnera avec la férocité qu'on sait sur la future République démocratique du Congo.
La question Tutsi et Hutu n'est pas nouvelle au Kivu. Ainsi, voici ce que je lis dans Géopolitique du Congo, un petit livre écrit par Marie-France Cros et François Missaire et publié par les éditions Complexes. Ces deux ethnies ont toujours été présentes au Kivu, soit parce que des régions aujourd'hui congolaises dépendaient avant la colonisation du royaume du Rwanda, soit parce que des sujets du roi du Rwanda y avaient trouvé un refuge contre les persécutions dont ils faisaient l'objet chez eux, comme les Banyamulenge arrivés sur les hauts plateaux du sud Kivu au XVIIIe ou au XIXe siècle. D'autres furent déplacés en masse du Rwanda au Congo de manière organisée entre 1934 et 1955 par le colonisateur belge, désireux de fournir de bons agriculteurs aux grandes plantations des colons qui se heurtaient au sous-peuplement du Nord Kivu. Tous devinrent Congolais à l'indépendance. Des Tutsis rwandais émigrèrent encore au Kivu à chaque épisode de pogrom ethniste à leur encontre déclenché après l'indépendance de leur pays d'origine ou pour fuir la discrimination ethnique dont ils étaient victimes, accès restreint à l'école, à l'emploi et à un passeport. Des Hutus burundais firent de même en masse lors du génocide déclenché contre eux par le régime de Bujumbura en 1972, puis pour fuir la guerre civile en 93 et 2003. En outre, tout au long des années Mobutu, durant lesquelles le Zaïre fut un pays relativement prospère, une importante émigration économique a encore grossi le nombre des uns et des autres au Kivu, avec d'autant plus d'aisance que ce dernier ressemble à leur pays d'origine, une succession de montagnes d'un vert émeraude, un air plus sain à basse altitude, une agriculture commune, des langues proches, des traditions de pouvoir royal équilibrées par de subtils contre-pouvoirs.
Le temps est si bref dans la peau d'un chef.
Après cet épisode communautaire, Kabila se fait oublier.
Que devient-il alors?
Bon, il semble bien qu'il ait renoncé à la lutte politique, au moins temporairement. Et il fait des affaires. Kabila achète et vend de l'or, des pierres précieuses, mais aussi des pointes d'ivoire. On lui prête aussi des intérêts dans des établissements un peu louches. Mais je ne peux pas être affirmatif, car Kabila a toujours refusé de parler de son passé, et rares sont les témoins. Par contre, ce qui semble plus avéré, c'est que Kabila s'est beaucoup déplacé. Dans les pays voisins, mais aussi en Chine.
La Chine, dont il était, sans me souvenir, un fervent admirateur.
Et il faut souligner que lorsqu'il sera président, sa seule visite d'État sera justement pour la Chine. Mais avançons. Il réapparaît donc politiquement, je veux dire, en 1996.
Comment alors?
Kabila l'a toujours nié, mais ce sont les Rwandais qui sont allés le chercher. À l'époque, l'homme fort du Rwanda, le général Kagame, veut en finir avec les camps de réfugiés Hutu installés de l'autre côté de la frontière avec le Zaïre. Parce qu'il sait très bien que, à l'abri de cette population misérable, les anciens responsables du génocide sont en train de reconstituer une véritable armée.
Oui, alors une armée qui pourrait tenter de chasser les Tutsis de Kigali.
En outre, je suis persuadé que Kagame entend profiter de la déliquescence du régime de Mobutu pour annexer tout ou partie de la région du Kivu.
Oui, où vivent déjà de nombreux Tutsis.
Oui, oui. Et s'il n'annexe pas, il compte bien au moins exploiter les richesses du Kivu à son profit. Seulement, si l'armée rwandaise intervient directement au Kivu, Kigali sera accusé d'agression contre son voisin zaïrois.
Oui, forcément.
Eh oui, par conséquent, il faut habiller un peu l'opération, d'où l'idée de faire appel à l'ancien guerriero Kabila.
Oui, je vois. Il ne s'agira plus d'une invasion, mais d'une guerre civile.
Et donc d'une affaire interne purement zaïroise.
C'est une fiction.
Évidemment. Car qui va armer et équiper les combattants sinon le Rwanda? Le Rwanda qui ira même jusqu'à incorporer nombre de ses soldats dans la future armée de Kabila. J'ajoute, mais après tout ce que je vous ai dit précédemment, ça ne vous étonnera pas que les États-Unis ne sont nullement hostiles à ce projet. Bien au contraire.
Est-ce que ça signifie qu'ils l'ont encouragé?
Oh, certainement. Avant d'agir, Kagame a pris soin de faire une petite visite à Washington. Et les soldats de Kabila seront payés avec des dollars, bien neufs. Mmh.
Les Américains pensent donc qu'ils ont trouvé en Kabila le successeur de Mobutu. Enfin,
oui.
Le possible successeur.
Oui, 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 un homme qui les laissera ensuite agir à leur guise au Congo. Car ils ont des projets pour le pays.
Expliquez.
Les Américains se sont toujours beaucoup intéressés au Congo. Il ne faut pas oublier que l'uranium des premières bombes atomiques américaines provenait du Congo. Et puis avant 1990, il y avait des raisons plus politiques. En tout cas, l'instabilité grandissante du Zaïre du maréchal Mobutu inquiétait beaucoup Washington. Et certains stratèges proches de la Maison-Blanche avaient songé que la solution idéale consistait à démembrer ce trop grand pays dont les frontières avaient été dessinées par le colonisateur belge.
Ah, c'est quoi, c'est créer plusieurs petits Congos ?
Non, non, mais attribuer certains territoires à des pays voisins, comme le Kivu, par exemple, qui serait donné au Rwanda. Mais remarquez-le bien, ce qui s'est passé ensuite avec l'intervention au Congo même de tous ses voisins ressemblait à la mise en œuvre du projet américain.
Un projet, alors, au fond, qui avait pour finalité d'exploiter au mieux les richesses du pays.
Bien entendu.
Kagame, président rwandais, sait-il, lui, que le vrai dessein des Américains est de trouver un remplaçant à Mobutu ?
Sans doute. Enfin, il s'en moque. Ce qu'il veut, lui, c'est d'abord en finir avec les Hutus de la frontière et s'approprier une partie du territoire zaïrois. Toutefois, il va bien vite déchanter. Enfin, n'allons pas trop vite. Avant de passer à l'offensive, on poursuit le maquillage. Kabila crée un mouvement, l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, et il s'allie avec quelques autres zaïrois.
Toujours pour donner le change.
Oui.
Qui alors, comme allié, là?
Oui, presque naturellement, Kabila recrute des hommes chez les Tutsis qui vivent au Zaïre. Puis il fait appel à ses vieilles connaissances du temps de la guérilla. Il rassemble également autour de lui des familiers et des gens de son ethnie. Ensuite, et c'est une nouvelle preuve de l'implication américaine, des Congolais exilés aux États-Unis le rejoignent. Et il y a enfin dans son armée de jeunes maquisards qui opèrent sur la frontière ougandaise contre les troupes de Mobutu.
Est-ce que ça veut dire que l'Ouganda aussi va soutenir Kabila ?
Oui, oui, à l'époque, Rwanda et Ouganda sont très liés. C'est en Ouganda que Kagame a organisé et entraîné la troupe qui lui a permis de prendre le pouvoir à Kigali. En outre, ce puissant voisin du Zaïre nourrit lui aussi des ambitions territoriales et économiques. Il a un alibi tout trouvé pour intervenir. La présence de rebelles ougandais sur le sol congolais dans la région de l'Ituri, au nord du Kivu. On y repérera même plus tard des membres de la sinistre et sanguinaire armée du seigneur de Joseph Kony, dont nous avons déjà parlé il y a quelques années.
Tout à fait. Une remarque quand même avant d'aller plus loin là. Cette armée de Kabila me paraît bien hétéroclite.
C'est sûr, mais en face d'elle, elle va rencontrer des soldats zaïrois démoralisés qui ne pensent qu'à piller et violer et non pas à se battre.
Remarquez bien, ça n'a guère changé aujourd'hui.
En effet, mais nous allons y venir. Les forces armées congolaises se débandent dès que l'armée du général rebelle Nkunda les attaque.
Oui, ça, c'est en ce moment. Et elles se vengent forcément sur la population. Alors quand Kabila passe-t-il à l'action ?
En octobre 1996. Et comme prévu, ce sont d'abord les camps des réfugiés Hutus qui sont attaqués. Et malgré l'habillage congolais, personne ne s'y trompe. C'est bien l'armée rwandaise qui est le fer de lance de l'opération. Une opération qui provoque la fuite de dizaines de milliers de réfugiés.
Une deuxième fuite, donc.
Mais, hein. Oui.
Et aussi des massacres à grande échelle.
Hein. Ah, il ne pouvait pas en être autrement. Les Rwandais sont entrés au Zaïre pour régler à leur façon le problème Hutu. Ils sont donc impitoyables et se livrent à une véritable boucherie.
Avec la complicité de Kabila, donc.
Certainement. Ouais. Ils ne pouvaient pas l'ignorer, même si ce sont surtout les soldats rwandais qui sont les plus impliqués dans ces massacres. Les Rwandais et les Tutsis zaïrois.
Et la guerre elle-même
Étant donné le peu de résistance qu'elle rencontre, les forces rebelles conquièrent assez vite les principales cités du Kivu. Et les Rwandais se payent en procédant à un pillage systématique. Mais ce qui compte, c'est l'émergence progressive de Laurent Désiré Kabila.
L'émergence politique.
Il parade, prononce des discours, s'adresse à la presse. De plus en plus, il apparaît comme étant non seulement le numéro un de ce mouvement de rébellion, mais aussi un candidat sérieux à la succession de Mobutu.
Et la population, alors?
Elle subit, comme d'habitude. Mais la jeunesse, elle, s'enthousiasme. Et Kabila recrute. Dans un pays ruiné où il n'y a pas de travail, ce n'est guère difficile, car les soldats sont payés, eux.
Et ce sont toujours les Américains qui paient?
Pas toujours. Kabila, qui est un homme d'affaires, organise la collecte de fonds et crée un impôt de guerre.
Mais qui va le payer,
alors? Les industriels et les investisseurs étrangers.
Mais vous m'avez dit que le pays était ruiné.
C'est vrai, mais il dispose toujours de ressources considérables. Et dès que l'Alliance est bien installée dans le Kivu et que la région est sécurisée, ils sont nombreux à se précipiter et à signer des contrats d'exploitation avec le nouveau pouvoir. Et en vertu du nouveau système d'imposition mis au point par Kabila, ils payent d'importantes contributions au trésor de guerre de l'Alliance.
Ça veut dire que Kabila inspire confiance, alors?
Mais je vous le disais, il prend une autre dimension. Au départ, bah, il est clair qu'il n'est qu'une marionnette dans les mains des Rwandais, mais bientôt il s'émancipe. Et à Kigali, ça ne plaît pas.
Ah oui, à Kigali au Rwanda, mais pourquoi alors?
Ah bah parce qu'il se révèle nationaliste et signifie clairement aux dirigeants rwandais qu'il n'est pas question qu'ils annexent purement et simplement le Kivu.
Au fond, quoi, c'est une sorte de nouveau Lumumba?
Et surtout un homme qui entend que soient respectées les frontières de son pays. Ce pays qu'il va maintenant conquérir en seulement quelques mois.
Revenons un instant sur les massacres de Hutu perpétrés en 1996 et 1997. Malgré le peu d'empressement de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a nommé une commission d'enquête. Le rapport qu'elle a rédigé a explicitement accusé Kabila, mais aussi le président rwandais Paul Kagame, de crimes contre l'humanité. Ainsi, le rapporteur chilien estimait qu'entre 150 000 et 180 000 personnes ont été tuées. Et pourtant, ce rapport ne sera pas suivi d'effet. Explication de la correspondante du Monde aux Nations Unies, l'instabilité politique et militaire dans la région des Grands Lacs, la crainte de l'éclatement de la République démocratique du Congo et surtout le sentiment collectif de culpabilité à la suite du génocide de 1994 au Rwanda ont contribué à la décision de la communauté internationale de ne pas harceler M. Kabila dans le domaine des droits de l'homme.
La marche triomphale de Kabila commence donc au Kivu en octobre 1996. Puis il s'empare du Katanga, sa province natale dont il confie le gouvernement à l'un de ses cousins, et le commandement des forces de sécurité à son fils Joseph. Puis il va progresser vers Kinshasa. Au mois de mai, Mobutu, très malade...
Il va mourir peu après au Maroc, hein, d'un cancer.
C'est exact. Donc au mois de mai, Mobutu s'enfuit, et Kinshasa tombe aux mains de Kabila. 7 mois lui ont suffi pour conquérir le pouvoir, et sa victoire suscite un immense espoir chez les Congolais, qui viennent de subir une trentaine d'années de dictature. Mais Kabila va très vite décevoir.
Et il va lui aussi se comporter en dictateur.
Ouais, oui, contrairement à ce qu'il avait promis, il fait arrêter tous ceux qui s'opposent à lui. Et même s'il met un terme aux manifestations les plus visibles de corruption et de gabegie, il met en place une administration tatillonne qui va paralyser l'économie. Bref, Kabila est un amateur et un piètre dirigeant. Mais il y a plus grave encore. S'il a gagné, c'est grâce au Rwanda et à l'Ouganda, deux pays qui n'ont nullement l'intention d'abandonner la place.
Oui, parce que ces deux pays sont militairement présents au Congo.
Bien sûr. Surtout les Rwandais, dont certains soldats sont intégrés dans les forces armées congolaises, et conseillent même directement le président congolais. Très vite, Kabila va s'apercevoir que ses deux alliés sont très encombrants.
Et il va donc tenter de s'en affranchir.
Ben, c'est normal, non ? Fin juillet 1998, le nouveau président de la République démocratique du Congo, on ne parle plus de Zaïre, prend une décision lourde de conséquences. Il demande aux troupes rwandaises de quitter le pays, et il laisse entendre qu'il va annuler certains contrats commerciaux passés avec Kigali.
Alors, dans cette capitale, on doit dénoncer l'ingratitude de celui qu'on a puissamment aidé.
Oui, oui, la réponse du Rwanda est quasi immédiate. Au début du mois d'août, une rébellion éclate au Kivu.
Une rébellion suscitée par Kigali.
Bien entendu. C'est la deuxième guerre civile de la région qui commence. Et ce sont les anciens alliés de Kabila au sein de l'Alliance, les Tutsis du Kivu, qui sont au cœur de ce mouvement insurrectionnel. Donc c'est clair. D'ailleurs, les Rwandais ne cachent pas qu'ils sont derrière ces troupes rebelles. Et ils ont un bon argument pour cela. Toujours le même, la présence permanente au Congo de ces Hutus qui sont responsables du génocide de 1994.
Alors ça veut dire que les Hutus n'ont pas tous été massacrés en 1996.
Car ce ne sont pas les anciens militaires ou miliciens qui ont été exterminés. La plupart du temps, ce sont des civils.
Des innocents, vous voulez dire.
La plupart du temps, oui. Les autres, les génocidaires, ont fui à temps. Et Kigali exige que ces hommes qui représentent toujours une menace leur soient remis. Les Rwandais vont même plus loin. Ils accusent Kabila d'avoir recruté certains d'entre eux dans son armée.
Et c'est vrai, ça ?
Bah, très probable, oui. Mais il faut remarquer que l'armée congolaise, au cours de cette nouvelle guerre civile, ne sera pas très tendre à l'égard des Tutsis. Et c'est un euphémisme. Quoi qu'il en soit, la rébellion, encouragée et même provoquée par le Rwanda, remporte très vite des succès. Et bientôt, elle va contrôler 40% du territoire congolais.
à l'est
et au nord.
Est-ce que l'ancien allié ougandais intervient lui aussi?
Forcément. L'Ouganda et le Rwanda ne sont pas loin de considérer que l'est du Congo fait partie de leur arrière-pays.
Mais leur hinterland, comme disent les Allemands.
Oui, oui, c'est-à-dire un territoire dont ils peuvent exploiter les ressources naturelles. Donc, le président ougandais, Museveni, lui aussi participe à la radia. Mais sagement, comme il sait que la guerre est toujours très coûteuse, il ne va pas engager directement son armée.
Oui, mais il va soutenir des rebelles.
Un mouvement en particulier. Le mouvement pour la libération du Congo, dirigé par un homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba, qui a rassemblé autour de lui d'anciens officiers de Mobutu. Mmh.
Bemba, il faut le noter, entre parenthèses, là, qui se trouve aujourd'hui à La Haye, hein, avant de comparaître devant le tribunal pénal international.
Effectivement. Hein. La conséquence immédiate de ces différentes initiatives, c'est un chaos généralisé. On assiste à la floraison de petits partis armés qui sont soutenus soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda, et qui souvent luttent les uns contre les autres.
Ça simplifie pas les choses, ça.
Et une fois encore, ce sont les populations locales qui en sont les victimes. Femmes violées par des soudards qui sont parfois séropositifs. Villages pillés, brûlés, réfugiés qui traînent sur les routes ou les pistes. Bref, l'ordinaire d'une guerre civile en Afrique.
Mais comment Kabila peut-il se sortir de ce guépier?
En août 1998, il est victime d'une tentative de putsch, mais il en échappe. Et pour contrer les menaces rwandaises et ougandaises, il fait appel à deux autres pays africains, l'Angola et le Zimbabwe.
Qui viennent à son secours.
Et qui interviennent militairement en République démocratique du Congo. C'est en particulier grâce à ces deux nouveaux protecteurs que Kabila réussira in extremis à sauver sa peau, sa capitale, Kinshasa, mais aussi la province du Kasaï, au centre du pays, qui fournit au régime l'essentiel de ses ressources, grâce à l'exploitation des mines diamantifères. Et au fond, dans le bilan politique médiocre de Kabila, bah, il faut reconnaître que ce fut sa seule action d'éclat.
Vous n'exagérez pas un peu?
Non, cet appel au secours a surpris tout le monde, et pas seulement en Afrique. À Washington, par exemple, où l'on pensait bien être débarrassé d'un type aussi incontrôlable, on a été désagréablement pris de court.
Mais est-ce que l'intervention de ces deux nouveaux États africains ne complique pas une situation qui est déjà fort complexe, hein?
Vous avez raison, car l'Angola et le Zimbabwe entendent aussi recevoir leur part du gâteau.
Ce qu'ils obtiendront?
Bien entendu. Surtout le Zimbabwe, avec lequel Kabila va signer de très importants contrats commerciaux. Le cas de l'Angola est un peu différent. L'intervention de l'armée angolaise avait d'abord pour objectif de lutter contre l'UNITA de Jonas Savimbi, qui sévissait aussi au sud du Congo, où il avait parfois trouvé refuge.
Le mouvement rebelle angolais.
Oui, je vous propose de parler bientôt de ce personnage qui a longtemps été l'un des chouchous de la France.
Savimbi, hein.
Oui, un homme qu'on ne manquera certainement pas d'évoquer au procès de l'Angola Gate, qui s'est récemment ouvert à Paris.
Ouais. On en reparlera. Et la communauté internationale, hein,
L'ONU a essayé d'imposer un cessez-le-feu dès le début des hostilités, en vain. Plus sérieusement, un an plus tard, l'Organisation des Nations Unies a réussi à réunir à Lusaka la plupart des belligérants. Et un accord a été difficilement conclu.
Que prévoyait-il, là?
D'abord, l'envoi de casques bleus, 3000.
C'est peu, non?
C'est même ridicule à l'échelle d'un pays aussi grand et où la guerre fait des rages un peu partout. Ensuite, il a été décidé que les armées étrangères devaient se retirer du Congo dans un délai maximum de 6 mois. Délai au bout duquel l'autorité de l'État congolais serait rétablie après l'ouverture d'un vaste débat national auquel tous les partis participeraient.
Ouais, donc même les rebelles qui avaient pris les armes.
Oui, au même titre que le gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire que Kabila était désormais considéré comme un chef de faction à l'égal des autres. Mais il apparaissait dès la signature de cet accord que personne ne respecterait les termes.
Essentiellement alors, pour quelle raison?
D'abord parce que Kabila était affaibli et ne régnait plus que sur une partie du Congo. Ensuite, et c'est la vraie raison, le pays était maintenant divisé en protectorats régis et exploités par les puissances de la région. Et aucun de ces États n'avait envie de renoncer à la manne financière que leur apportait cette annexion de fait.
Alors au fond, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, là, on aboutissait de fait à ce partage du pays qui était envisagé par les États-Unis avant la chute de Mobutu.
Oui, la démonstration était faite que le Congo, trop grand pays, abritant une multitude d'ethnies hostiles les unes aux autres, était ingouvernable.
Alors, vous voyez la main des Américains derrière tout ça?
Je vais certainement vous décevoir, mais je ne crois pas. Certes, ils ont encouragé les Rwandais et même les Ougandais à agir. Mais était-il dans leur intérêt d'encourager à la création de micro-États qui risquaient de déstabiliser un peu plus l'Afrique centrale? Franchement, je ne le crois pas. Mais c'est vrai que Kabila, qu'ils avaient contribué à hisser au pouvoir, demeurait pour eux un vrai problème.
Ah, mais il ne va pas tarder, lui aussi, à disparaître.
Oui, en 2002, oui. Et si la vie de Laurent Désiré Kabila est demeurée mystérieuse, tant elle comporte de zones d'ombre, sa mort ne l'est pas moins. Et plus de 6 ans après, malgré un procès fleuve où 30 condamnations à mort ont été prononcées, on n'en sait toujours pas plus.
Ah, il y a quand même un certain nombre de faits qui ont été établis.
Détrompez-vous. C'est le flou le plus complet. On ne sait même pas quand exactement Kabila est mort. Souvenez-vous, ce n'est pas si vieux. Les autorités congolaises ont attendu 2 jours avant d'annoncer que le président avait été assassiné. Et très étrangement, sa dépouille a été transportée par avion au Zimbabwe avant d'être rapatriée pour les obsèques.
Ah, c'est peut-être qu'il n'était pas mort et qu'on espérait encore le sauver.
Pourquoi pas? Mais à ma connaissance, personne n'a encore donné d'explication crédible à cet étrange dernier voyage de Kabila. Et ce n'est qu'un mystère parmi beaucoup d'autres, au fond, dans cette affaire. La seule chose dont on soit sûr, c'est que le président congolais a été tué de plusieurs coups de feu, quoi qu'il en soit. La mort de Kabila n'a rien réglé, et tous les germes d'une nouvelle catastrophe humanitaire au Kivu étaient déjà là. Et je vous propose de voir cela de plus près dans un prochain entretien.
Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et sans doute la podcaster. À noter sur les écrans actuellement le film franco-libérien Johnny MacDog de Jean-Stéphane Sauver, une fiction sur le quotidien des enfants soldats tournés au Libéria, mais il y a aussi des enfants soldats au Congo.